Une série de meurtres au sein d'une petite communauté rurale de l'Iowa laisse la population en état de choc. Leurs auteurs, deux jeunes hommes désœuvrés et sous l'emprise de la drogue, sont pistés par le FBI pendant plus de 1000 km. De prise d'otages en embuscade, les agents devront déployer tout leur talent de négociateur pour parvenir à arrêter les suspects vivants. Vous écoutez les dossiers du FBI. La génération perdue. Première partie.
Le 11 juin 1997, dans la région centre-sud de l'Iowa. Cette région rurale, où abondent fermes agricoles et fermes d'élevage, était déjà animée alors que l'aube laissait place au matin. La plupart des ouvriers agricoles étaient arrivés plusieurs heures plus tôt pour commencer les travaux quotidiens. Pourtant, une des ouvrières, qui d'habitude ne manquait jamais le travail sans avertir, était absente ce matin-là. Son patron, un fermier de la région, s'inquiéta en constatant qu'elle ne répondait pas au téléphone. Comme elle vivait seule, il se rendit jeter un coup d'œil chez elle. Il remarqua alors que son pick-up n'était pas garé dans l'allée et que la porte d'entrée était entrouverte. À l'intérieur, il trouva le corps inerte de son employé, Barbara Garber. Le chef de police Paul De Geest, du bureau du shérif de Mahaska County, répondit à son appel au service d'urgence.
Au cours de mes 20 années de travail au sein des forces policières, j'ai eu affaire à 5 ou 6 homicides. C'est dire que c'est plutôt rare à Oskaloosa ou à Mahaska County. En entrant dans le salon, nous avons aperçu le corps de Barbara Garber. Elle était en position assise dans un fauteuil tout habillé. Elle penchait du côté gauche et du sang s'échappait de sa tête.
Le shérif appela les experts du service d'investigation criminelle de l'Iowa pour faire l'examen de la scène. La femme dans la quarantaine avait reçu 4 projectiles à bout portant alors qu'elle était assise dans un fauteuil. Les techniciens recueillirent des douilles de projectiles 22 près de la victime. À ses pieds, ils trouvèrent les restes de son petit déjeuner. L'absence d'autres blessures sur le corps indiquait qu'il n'y avait pas eu de lutte, comme nous l'explique l'agent spécial Michael Berrier de l'État de l'Iowa.
Il ne semblait pas y avoir eu entrée par effraction. Quelqu'un était simplement entré dans la maison, soit parce qu'on l'y avait invité, soit parce que la porte était déverrouillée. La maison n'était pas parfaitement rangée, mais elle n'était pas sans dessus-dessous non plus. Et rien ne semblait avoir été volé à part le véhicule disparu.
Le fermier décrivit le véhicule de son employé. Il s'agissait d'un modèle récent de pick-up vert foncé. Les détectives transmirent alors un bulletin d'alerte à toutes les unités de patrouille du secteur. Ils interrogèrent ensuite la voisine la plus proche qui vivait à 1 demi-kilomètre de la victime. Elle avait remarqué quelque chose peu avant l'aube, au moment où elle partait travailler. Une voiture à haillons bleus ou une familiale reculait de l'allée de la maison de Madame Garber. La voisine n'avait toutefois pas pu voir qui se trouvait à l'intérieur et elle n'avait pas noté le numéro de plaque d'immatriculation.
On nous a décrit ce véhicule comme étant une vieille voiture de type familial de couleur bleue. Comme on n'avait jamais aperçu ce véhicule à la résidence Garber auparavant, nous avons commencé à croire qu'il s'agissait peut-être de la voiture du suspect.
Les policiers interrogeaient encore la voisine lorsqu'ils reçurent un message d'alerte par radio. Dans le hameau de Gibson, à 8 km de là, on avait dévalisé une banque. des policiers de deux comtés différents répondirent à l'appel. Comme les dépôts bancaires sont protégés par une assurance du gouvernement fédéral, on fit également appel au FBI. Le bureau du FBI le plus proche se trouvait à Cedar Rapids, soit à 125 km de là. L'affaire fut confiée à l'agent Scott French. Cette petite banque ouvrait ses portes pour la première fois ce jour-là à Gibson, une localité de seulement 70 habitants.
Il n'y a qu'une route pavée à Gibson.
Agent spécial Scott French.
Sinon, toutes les fermes sont reliées par des routes de gravier qui mènent à l'extérieur du village.
L'agent French devait compter une heure pour se rendre sur place. Les policiers du comté, qui arrivèrent avant lui, établirent un périmètre de sécurité avant de prendre les dépositions des témoins. Selon les employés de la banque, le vol avait eu lieu à 10 heures. Il n'y avait aucun client et le gardien de sécurité n'avait pas encore commencé son quart de travail. Seule une caissière et le gérant étaient là lors du vol. Deux voleurs armés et portant des cagoules de ski foncées, des gants et des combinaisons de travail brunes étaient entrés soudainement dans la banque. L'un d'eux était armé d'un fusil et l'autre avait un pistolet. Les voleurs avaient mis les piles de billets de banque dans des sacs à ordures. Ils avaient ensuite pris la fuite avec 65 000 dollars en liquide. Malgré leur cagoule, les employés croyaient que les deux hommes étaient de race blanche.
La banque d'épargne de Gibson n'avait aucun système de sécurité, c'est-à-dire aucune caméra vidéo pour filmer le vol. Cela nous rendait la tâche difficile, car nous avions pour seul indice les dépositions des témoins.
Une seule personne avait assisté à la scène à l'extérieur de l'établissement, une fillette de 10 ans. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle était à vélo de l'autre côté de la rue lorsque ça s'était produit. Deux hommes portant des cagoules étaient sortis d'une voiture grise avant de s'engouffrer dans la banque. La fillette était partie avant que les voleurs n'en ressortent. Elle était trop jeune et avait eu trop peur pour noter le numéro de plaque d'immatriculation. Les policiers avisèrent immédiatement toutes les unités de patrouille de surveiller toute berline grise, car c'était probablement la voiture que les voleurs avaient utilisée pour prendre la fuite.
Dans cette affaire, j'avais l'impression que les voleurs venaient de la région. Premièrement, la banque de Gibson était située dans un village très isolé. Deuxièmement, les deux hommes portaient des combinaisons de travail, ce qui est très fréquent chez les ouvriers d'ici.
Un policier qui se dirigeait vers la scène du crime fit demi-tour et choisit plutôt les routes que pouvaient avoir prises les voleurs lors de leur fuite. À 4 km de la banque, il aperçut une berline grise abandonnée au milieu d'un champ. Il n'y avait personne autour. Il vérifia la voiture et appela au poste pour donner le numéro de plaque d'immatriculation. La voiture était enregistrée au nom d'une certaine Highland Schultz, une adolescente qui vivait dans le secteur.
Il a trouvé cela étrange de voir cette voiture arrêtée à cet endroit.
Paul De Geest, chef de police.
Comme il savait que sa propriétaire ne vivait qu'à quelques kilomètres de là, il s'est rendu chez elle.
Cette petite population rurale de l'Iowa était très unie et le policier connaissait bien la famille Schultz. Il sonna mais n'obtint aucune réponse. Il s'aperçut alors que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il trouva Highland Schultz, 18 ans, gisant sur le sol, tué par balle. Il appela au poste pour obtenir de l'aide. Le chef de police Paul De Geest de Masca County eut alors l'intime conviction que ce deuxième homicide et le vol de la banque étaient reliés au premier meurtre.
Nous étions presque sûrs que tous ces crimes étaient le fait des mêmes individus. Ils avaient tous été commis à l'intérieur d'un rayon de 8 km. Et encore une fois, ce n'est pas le genre de choses qui se produit souvent dans cette région rurale de l'Iowa. Deux meurtres et un vol de banque en moins de 2 heures.
La jeune femme qui venait de terminer ses études secondaires avait reçu 2 projectiles à la tête à bout portant. On recueillit une cassette audio et 2 douilles de projectiles de calibre 22 tout près du corps, soit le même calibre que le projectile de la première scène du crime. Comme pour le premier homicide, les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction ni blessure sur la jeune femme qui aurait démontré qu'elle s'était débattue. L'agent spécial de la police de l'Iowa, Michael Barrier, découvrit alors un autre lien entre cette victime et la première, Barbara Garber.
En ratissant le secteur autour de la résidence des Schultz, nous avons appris qu'un pick-up vert récent avait été aperçu dans l'allée de leur maison vers 9h30 ce matin-là. Cela nous a intrigués, puisque Barbara Garber possédait un véhicule qui correspondait à cette description. Nous croyons qu'après avoir volé son véhicule, le criminel s'était rendu à la résidence des Schultz. Par conséquent, les 2 homicides étaient reliés ensemble.
On envoya les 2 corps au médecin légiste du comté pour les faire autopsier. L'analyse balistique confirma ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. Les 2 victimes avaient été tuées avec la même arme à feu, un pistolet semi-automatique de calibre 22. Le FBI et les enquêteurs de la région établirent un poste de commandement au bureau du shérif de Masca County. Ils mirent en place une ligne téléphonique spéciale et contactèrent les médias pour leur donner la description du pick-up vert foncé de la première victime. Les policiers suivirent des dizaines de pistes. Quelqu'un déclara alors avoir aperçu quelque chose vers 10h30 ou 11h le matin du vol et du double homicide. Il avait vu un pick-up vert foncé près de la ville d'Oskaloosa. Le témoin identifia le conducteur qui vivait dans la région. Il ne l'avait toutefois jamais vu à bord de ce véhicule. Il y avait un passager à bord, mais le pick-up recula avant qu'il n'ait eu le temps de l'identifier.
L'individu qui nous a dit avoir aperçu le pick-up avait identifié un certain Jamie McMahon. Il le connaissait assez pour l'avoir bien reconnu, et il était absolument sûr qu'il s'agissait de lui. Il nous a également dit qu'un autre individu se trouvait dans le véhicule, mais qu'il n'avait pas pu le voir d'assez près pour dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Il savait seulement qu'il y avait un passager à bord.
À la fin de la première journée, les enquêteurs disposaient donc d'un nom et du visage d'un suspect éventuel pour le double homicide et le vol de banque. Il s'agissait de Jamie McMahon, âgé de 22 ans. Les agents et leurs collègues détectives espéraient le rattraper avant que lui et son complice ne frappent à nouveau. L'agent spécial Michael Barrier du service d'enquête criminelle de l'Iowa apprit alors que la dernière adresse connue de McMahon était celle de ses parents à Oskaloosa. Ceux-ci parurent inquiets quand l'agent Barrier les contacta, car ils étaient sans nouvelles de Jamie depuis les crimes.
Quand nous avons parlé aux amis et à la famille de Jamie McMahon, on nous a dit que c'était un type bien, un jeune homme travaillant. Mais au cours des derniers mois, il avait changé de personnalité. Il avait maigri et ne travaillait plus. Il semblait éprouver des problèmes.
Les enquêteurs se rendirent chez les McMahon pour fouiller la maison et tenter d'obtenir d'autres informations. Dans les dernières semaines, Jamie McMahon avait passé beaucoup de temps en compagnie de son demi-frère de 18 ans, Christopher Kaufman. Celui-ci ne vivait pas très loin. Les 2 jeunes hommes avaient chacun une bande d'amis différents et d'habitude, ils ne se fréquentaient guère. Mais ces derniers temps, ils étaient inséparables. Maintenant, ils avaient tous 2 disparu.
Comme la banque avait été dévalisée par 2 personnes et qu'un témoin avait aperçu McMahon en compagnie d'un autre individu,
Agent spécial Michael Berryer.
On pouvait en déduire qu'il s'agissait de Christopher Kaufman.
Les détectives interrogèrent les amis de McMahon qui se rappelaient l'avoir vu pour la dernière fois en compagnie de Kaufman tard le soir précédant les crimes au volant d'une vieille familiale bleue. L'un des amis de McMahon lui avait prêté sa voiture au cours des derniers mois parce que ce dernier n'avait pas les moyens de s'en offrir une, comme nous l'explique Paul de Geest du bureau du shérif de Mahaska County.
Ce véhicule était une voiture familiale bleue. Elle aurait pu ressembler à une voiture à haillons si on la suivait sur la route. Elle correspondait à la voiture aperçue par la voisine de Barbara Garber dans son allée plus tôt ce matin-là.
Les enquêteurs fouillèrent la voiture, mais n'y trouvèrent aucune preuve de l'implication de McMahon et de Kaufman dans le meurtre de Barbara Garber. Les amis de McMahon ajoutèrent que celui-ci avait toujours désiré posséder un pick-up vert comme celui de la victime, mais que c'était au-dessus de ses moyens.
Jamie était littéralement fou de ce modèle de véhicule. Plus tôt, au cours de cette année-là, il en avait commandé un, identique à celui que possédait Barbara Garber. Mais, faute d'argent, il avait dû annuler la commande.
Les amis de McMahon déclarèrent que la veille du meurtre, celui-ci et Kaufman s'étaient arrêtés pour leur emprunter autre chose. Un pistolet semi-automatique de calibre 22 qu'ils comptaient utiliser sur des chats errants. C'était l'arme utilisée lors des deux meurtres. Les enquêteurs prièrent les amis du suspect de les appeler dès qu'ils auraient de ses nouvelles. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre par d'autres amis que le présumé meurtrier avait fait un usage abusif de méthamphétamine depuis quelque temps. L'agent spécial Scott French était préoccupé par l'état mental du jeune homme, car ce stimulant créait facilement une dépendance.
Les gros consommateurs de méthamphétamine ressentent de nombreux effets secondaires. Notamment, ils peuvent rester éveillés pendant plusieurs jours. Deuxièmement, ils perdent l'appétit. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que ça peut sérieusement affecter le jugement. Les consommateurs deviennent de plus en plus paranoïaques et peuvent facilement devenir agités.
On organisa d'importantes recherches pour retrouver les deux jeunes hommes et le pick-up vert. Des agents et des policiers avisèrent également d'autres autorités policières par le biais des médias partout dans le Midwest. On fit émettre des mandats d'arrestation au nom de McMahon et Kaufman pour homicide et fuite pour éviter une condamnation.
Et dès le début, nous avons eu l'impression qu'ils avaient quitté l'État et toutes les suppositions sur l'endroit où ils allaient étaient aussi valables les unes que les autres.
Paul de Geest, chef de police.
La plupart des enquêteurs dans le coup croyaient qu'ils avaient pris la direction du Mexique.
Les détectives rendirent à nouveau visite aux amis et à la famille des deux hommes recherchés en se disant que ceux-ci chercheraient peut-être à entrer en communication avec eux. La petite amie de McMahon donna au FBI la permission de mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Si McMahon appelait, les agents pourraient retracer son appel. Les recherches pour retrouver McMahon et Kaufman étaient en cours lorsque l'escouade spéciale reçut un appel important. Les parents de deux familles signalèrent la disparition de leur fille. Celle-ci, âgée de 16 et 17 ans, n'était pas rentrée chez elle depuis la veille. Ses deux amis étaient inséparables. Comme il y avait deux tueurs dans les parages, les parents de ces adolescentes craignaient le pire. Les enquêteurs découvrirent alors que McMahon et Kaufman avaient fait la fête avec des jeunes femmes dans un motel d'Oskaloosa la soirée précédant la série de crimes. L'employé du motel déclara aux enquêteurs que ces jeunes femmes y avaient passé la nuit et qu'elles y étaient toujours le lendemain matin. L'employé avait revu McMahon et Kaufman plus tard le même jour à bord d'un pick-up vert. Selon elle, les deux jeunes filles étaient parties avec eux. Les enquêteurs firent émettre un bulletin d'alerte national pour signaler que les fugitifs McMahon et Kaufman avaient été vus la dernière fois en Iowa en compagnie de deux adolescentes.
Nous étions inquiets pour la sécurité des jeunes filles. Si Jamie McMahon était prêt à tuer n'importe qui, même des personnes de son entourage, ces adolescentes couraient un réel danger.
Les enquêteurs remontèrent une piste prometteuse fournie par un appel du public. Quelqu'un avait aperçu McMahon et Kaufman à une maison mobile à plusieurs kilomètres de chez eux. Il était impossible de savoir s'ils étaient encore armés, sous l'effet des méthamphétamines et si les adolescentes se trouvaient encore avec eux.
Nous ne voulions courir aucun risque inutile, car nous ignorions dans quel état mental ils étaient. Nous avons fait appel à une unité SWAT. Nous avons cerné la maison et nous sommes arrivés de toutes parts.
Les agents lourdement armés étaient prêts au pire, même s'ils espéraient que les choses se passeraient sans encombre. Ils ordonnèrent à McMahon et Kaufman de sortir, mais n'obtinrent aucune réponse. L'équipe de policiers fit alors irruption à l'intérieur, prête à faire feu.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Stephen Cooper et il a été réalisé par Jeff Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assisté de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.